Trois invités, des kilomètres, des premières cartes au GPS, comment route et écriture font lieu commun.
La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
David Derrimé, Philippe Artière, Léonard Dauphin, bonjour, bienvenue à tous les trois.
Bonjour.
Quelques sauts dans le temps et dans l'espace aujourd'hui, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, de la chanson de geste au GPS avec vous, Léonard Dauphin, médiéviste, mention géohistorien, on va dire, qui publiait Géographie au pluriel, au Champ Vallon, question au Moyen-Âge que savaient les hommes et les femmes ordinaires de leur pays, de leur paysage, de leur territoire, comment les vivaient-ils, les éprouvaient-ils, les pensaient-ils? Vous répondez à tout cela et à bien davantage par une enquête qui s'en remet forcément à l'histoire, un peu à la géographie et beaucoup à la littérature, romans, poèmes, fables, farces, chansons de gestes, proverbes et même dictons géographiques. Quelques siècles plus tard avec vous, Philippe Artière, historien du contemporain, mention archives et vie violente, hein, pour faire court. Vous signez aux éditions Pauvert un drôle d'objet titré « Déroute » en deux mots, je précise, sous-titré « Accrochage », un texte pour le moins accidenté qui chemine par collage et qui fait de la route un itinéraire, un lieu, parfois même un événement et qui file tout droit vers la fameuse route. Le fameux carrefour qui vit Œdipe tuer son père, Laïos. Et puis quelques années plus tard encore, peut-être même demain, qui sait, avec vous, David Derrimé, fondateur des éditions Jean Boite, l'un des fondateurs des éditions Jean Boite, qui éditait One the Road, premier roman écrit par une intelligence artificielle, c'est en tout cas ce que signale le bandeau, intelligence artificielle embarquée dans une Cadillac, le temps d'un road trip New York-Nouvelle-Orléans. On commence donc par le commencement, ou presque. Laure Rossignolet, Celtage, chanson signée du troubadour limousin Gaucelm Fédit au XIIIe siècle, interprétée ici par Carole Matras. Rossignol, troubadour, celui-ci compris, limousin, hein, autant d'éléments qui traversent votre ouvrage Léonard Dauphin, on y reviendra. Votre étude tente de faire, alors c'est difficile évidemment de résumer en quelques phrases, hein, mais de faire émerger des géographies françaises du début du XIIe à la fin du XVe siècle, c'est-à-dire avant le règne de la carte. Alors peut-être faudrait-il dire, parler plutôt de sentiments géographiques, voire d'émotions géographiques éprouvées par les Français ordinaires. La question est alors, qu'est-ce que nous savons, au fond, de ce qu'ils savaient? Et on bute, j'imagine, très vite sur la question des sources. Partir de l'imaginaire géographique, qu'est-ce que ça pose comme question à l'historien que vous êtes, malgré tout?
Évidemment, pour nous, la route, le paysage, toutes ces choses commencent par des cartes, commencent par un langage cartographique. Alors, le plus simple, en fait, c'est de penser qu'il n'en éprouvait rien, parce qu'il n'y a pas les bonnes sources, celles que nous attendons. Et donc, il a fallu mettre de côté les sources de l'historien, ou ce qu'on attendait, dans ce monde où les cartes existent, mais où elles ne sont pas d'un usage courant, c'est un usage savant, un usage politique. Et avant les historiens, avant les cartographes, en fait, on trouve les poètes. Et donc, il a fallu utiliser des sources poétiques pour voir ce que les gens éprouvaient de commun, quelles étaient les idées qui circulaient. Alors, pourquoi la littérature, elle est écrite par des lettrés? Mais en fait, elle s'adresse très souvent à l'oral, à un très large public, et elle emprisonne des petits morceaux de réalité pour des effets de connivence, pour permettre justement de que le réel donne sa légitimité au texte. Et en mettant en série tous ces textes, on arrive à retrouver des lieux communs, justement, des choses que les gens partagent, quelle que soit leur classe sociale. Et on voit ces idées qui circulent. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai voulu partir du XIIe siècle, parce que c'est le moment, en fait, où la littérature française naît, les premiers troubadours. En Occitan, les premières chansons de geste, la chanson de Roland, elle est chantée pour la première fois à Hastings en 1066. Enfin, c'est la première mention qu'on en a. Et ensuite, on voit les idées toutes faites qui circulent dans ces textes, dans ces chansons, jusqu'au XVIe siècle.
Vous parliez de lieu commun, Léonard Dauphin. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu commun pour un historien ?
Alors, un lieu commun, quand on ne se pose pas trop la question, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt parce que tout le monde le sait. Mais finalement, quand on s'y attache, c'est ce qui est le plus difficile à trouver pour un historien, c'est ce qui est tellement évident que la plupart des documents d'archives n'en parlent pas. Parce que c'est la vie toute simple, et c'est la littérature qui peut nous laisser approcher. On trouve des idées dans les conversations fixées dans les pièces de justice, par exemple, quand les criminels passent aux aveux, qui témoignent d'idées, et ensuite de ces idées, on les retrouve dans les proverbes. Et on se dit à ce moment-là, voilà, c'était des choses que les gens partageaient, qu'ils avaient en commun. Et en particulier, là, je me suis attaché sur la question du paysage, de la connaissance du territoire, au dicton géographique. Donc, un lieu attaché à une idée. On en a gardé quelques traces, un moutarde de Dijon. C'est un dicton géographique du XIIIe siècle qu'on a encore. C'est le seul survivant. Les autres ont disparu. Mais ça nous montre, c'est en fait un patrimoine immatériel qui circulait. Et qui naît dès le XIIe, XIIIe, en fait, quand le commerce naît sur les routes qui sont ouvertes au moment de la grande croissance médiévale. Et on voit à ce moment-là vraiment les gens qui tissent des rapports très forts d'une province à l'autre, les marchands qui circulent, qui commencent à écrire des listes d'objets en provenance de diverses régions. Et tout de suite, la littérature fixe ces idées. Et ces listes passent dans les chansons de geste, ces listes passent chez les poètes, et créent vraiment un imaginaire géographique qui est né de la route.
Alors c'est un matériau, j'imagine, alors on a progressé pas mal depuis, hein, j'imagine que Philippe Artière peut en attester aussi, mais le matériau littéraire est un matériau qui est encore parfois un peu suspect pour l'historien, et sans doute pour le géographe. Et vous dites, Léonard Dauphin, qu'il vous a fallu faire confiance qu'il fallait faire confiance à ses sources. Vous dites même qu'il faut de l'empathie pour les textes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que le plus simple pour nous, historiens, c'est de chercher les erreurs dans les sources, de voir là où ils sont trompés. Je prends l'exemple d'une chronique où un vieux seigneur raconte ses souvenirs de la guerre de 100 ans. À un moment, il dit que quand il était à Quimper, il a vu Jersey et Guernesey. Bon, il s'est trompé. On peut s'attacher à ça. Attends, c'était 50 ans avant qu'il raconte ses campagnes, il s'est trompé. Mais à d'autres moments, ses souvenirs sont précis. Et témoigner de l'empathie, c'est chercher non pas les erreurs, mais ce qui est vrai, les petits faits vrais, et ainsi rentrer dans une démarche où on va accompagner cette connaissance.
Philippe Artière, qu'est-ce que ça vous inspire que cette notion d'empathie à l'égard du document, du texte ou de l'archive ?
Je crois que c'est ce que Bernard Le Petit appelait prendre au sérieux les acteurs de l'histoire. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire ne plus les considérer seulement comme des sujets observés, mais comme produisant des connaissances, produisant une connaissance poétique, mais somme toute, c'est ce qu'il nous reste. Je pense qu'on ne se pose pas la même question pour les sources judiciaires, par exemple, au XIXe siècle, alors qu'elles constituent le terreau majeur. Donc, de ce point de vue-là, l'anthropologie historique a été un moment essentiel et nous a quand même largement, je pense à Jean-Claude Schmitt et à d'autres qui ont largement, pour les médiévistes, mais aussi pour les contemporanéistes, nous ont affranchis de cette hiérarchie des sources. Et puis encore une fois, avec cette dimension qui me paraît essentielle dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ce souci de ce qui ne fait pas histoire. Et c'est bien ça qui, je trouve, dans ces géographies, est tout à fait passionnant.
Oui, je dirais même que cette hiérarchie, non seulement il faut s'en affranchir, mais il faut même la renverser. Parce que les documents d'archives, les documents judiciaires, c'est un discours du pouvoir dont nous percevons la logique, mais cette logique est une pure construction. Alors que quand on part à la recherche des lieux communs, on part à la recherche d'un langage qui est difficile à comprendre pour nous, parce qu'on n'en perçoit pas d'abord la logique, mais on peut à ce moment-là rentrer dans quelque chose qui n'est pas une construction, qui est une perception commune. Le chant des oiseaux, par exemple, c'est pas un discours idéologique, c'est l'environnement de tous les Européens pendant des siècles, voire des millénaires, et donc c'est vraiment la base de leur être au monde. Donc réussir à prendre au sérieux ces sources, c'est rentrer vraiment dans la vraie vie, en fait.
Alors justement, Léonard de Fambre, vous vous attardez dès le début, enfin quasiment au début, sur la notion de paysage, et notamment sur la notion de paysage sonore, hein, au fond, de ce qu'entendaient les Français à ce moment-là, en tout cas les Français ordinaires. Qu'est-ce que ce paysage sonore médiéval, hein, peuplé notamment d'oiseaux, hein, puisque vous en parliez à l'instant, vous a permis de mettre à jour ou de comprendre, bah, de cette sensibilité au paysage?
Tout d'abord, que ce que nous cherchons dans nos sources, c'est ce que notre culture dit d'y chercher. Et à partir du XVIIe, les Occidentaux ont vraiment choisi, enfin les élites, ont choisi un paysage visuel à partir des beaux-arts. Et on a posé des définitions très rigides du paysage. S'il n'y a pas de tableau paysager, il n'y a pas de sensibilité. Or, il faut justement, avec un regard anthropologique, reconsidérer ce que eux disaient eux-mêmes de leur monde. Et on voit qu'avant le XIVe, l'histoire de l'art fait qu'il n'y a pas de fond paysager dans les images. Mais par contre, il y a des sons, dans les chansons des troubadours par exemple, qui font écho au proverbe et qui renvoient un paysage qui est d'abord entendu. Et ça, ça passe dans les poèmes avec par exemple deux images qui reviennent tout le temps, mais parce qu'elles sont une expérience vitale. Les gens s'endorment au chant des oiseaux, parce qu'il n'y a pas de vitre, les fenêtres sont fermées avec du papier huilé, et donc on est en contact direct avec la nature. Puis une autre idée, c'est l'idée de la route. La route, c'est difficile, la plupart des gens la font à pied, mais le chant de l'oiseau fait marcher les gens. Ça les réconforte et c'est ça qui les pousse à aller de l'avant.
De quoi est-ce qu'il est fait cet environnement sonore alors, de manière générale, Léonard de Fambre?
Alors ici, je pense qu'on peut reprendre les travaux de Bernie Krause sur la géophonie, sur la zoophonie, sur le concert naturel. On peut vraiment distinguer sans doute l'expérience du bord de la mer où le bruit des vagues, le bruit du vent est vraiment prédominant. Mais la plupart des Français, en tout cas ceux qui écrivent et qui font les proverbes, sont vraiment des terriens, et pour eux c'est d'abord le concert des êtres vivants. Et on a quelques textes qui sont assez étonnants à cette époque où justement la nature se tait, et ce que les gens éprouvent, c'est un sentiment d'angoisse. C'est le printemps silencieux avancé, les gens ne savent plus où ils sont en fait. Un petit peu comme quand nous sommes dans le brouillard. Eux ils sont dans le silence, et c'est vraiment un sentiment de... Voilà, où le monde n'est plus perceptible.
Ce que nous montre aussi votre enquête, Léonard de Fambre, et puisqu'on en est au paysage, hein, donc au tout début de l'étude, c'est qu'au fond, le paysage est sans doute, la notion, l'idée même de paysage est sans doute bien antérieure à ce qu'on imagine, hein, ou à ce qu'on a fixé, ou à ce que l'histoire a fixé jusque-là. Quand est-ce qu'on commence, au fond, à parler de paysage français? Parce que par ailleurs, là, j'ai pas donné les bornes, hein, le sous-titrage de votre ouvrage.
Hein, 1100-1600.
1600, donc il va se passer beaucoup de choses quand même durant ces années-là, et on ne parle pas véritablement de la France, hein, au début de l'enquête. Quand est-ce qu'on parle de paysage français à proprement parler?
Eh bien, quand la France se constitue, elle se constitue très lentement, et c'est un pays bizarre, notre pays, parce qu'il s'est constitué autour de son État, autour de son roi. Donc j'ai commencé avec le paysage parce que j'ai voulu prendre la vie la plus ordinaire, et en fait, empiler dans les quatre parties les différentes couches de construction sociale. La fin, c'est sur les identités. Voilà, donc, on va dire la couche la plus superficielle, et celle qu'on voit le mieux dans les archives. Donc, il y a un petit peu moins de poésie. Et ça apparaît surtout avec la guerre de Cent Ans. C'est-à-dire que toute cette expérience vitale, les Français vont la considérer comme typiquement française, parce qu'ils sont en train de lire leur expérience comme une expérience politique, une expérience nationale. Et Montaigne, par exemple, quand il quitte la Savoie, enfin, il traverse le Bugey, il arrive dans la Bresse, à son retour d'Italie, et là, il dit... J'ai quitté les montagnes et j'arrive dans les plaines à la française. Alors, à l'époque de Montaigne, la Bresse, c'est toujours le duché de Savoie, hein, c'est pas le royaume de France, mais le paysage lui semble typiquement français parce que c'est une plaine. Et on a là, en fait, un phénomène de naturalisation, c'est un discours identitaire qui considère que sa propre vie est naturellement reliée à une forme politique.
Alors vous avez évoqué, en début d'émission, vous avez évoqué la question de la route, hein, qui finalement est assez peu présente dans le livre, mais qui aurait pu l'être, qui aurait dû l'être. Hein, c'est probablement même un petit peu le point de départ et où vous avez dû, j'imagine, buter notamment sur les sources. Si on éprouve le territoire par le temps, hein, c'est-à-dire les fameux 22 jours du nord au sud et puis 16 d'est en ouest à pied pour l'essentiel. Et si l'heure n'est pas encore à la géographie et aux cartes, hein, qui vont se préciser à partir du 15e siècle surtout, qu'est-ce que la route peut représenter pour l'homme ordinaire au Moyen-Âge ? Est-ce que c'est un itinéraire ? Est-ce que c'est une distance ? Est-ce que c'est l'inconnu ? Ou au contraire une façon d'appréhender le territoire ?
Je pense que c'est tout cela à la fois. En fait. Et si les routes, effectivement, sont peu présentes en tant que telles dans le livre, en fait, elles sous-tendent toutes ces connaissances, parce que ces connaissances circulent justement sur ces routes. Donc, ces routes sont d'abord une occasion de se rencontrer. Elles sont construites, en fait, à cette époque, notre réseau routier, avant celui des autoroutes, enfin, le réseau des routes nationales, il est très largement construit, mis en place à partir du 12e, 13e. Et donc, ces routes ont constitué vraiment le pays avec les échanges. Et c'est à partir de là que les idées circulent. Ensuite, sur le lieu routier lui-même, on voit apparaître, j'avais commencé là-dessus, puis finalement, j'ai choisi d'autres exemples, on voit apparaître une véritable culture routière, un patrimoine routier, avec des idées sur des étapes qui sont bien connues, avec des proverbes qui évoquent par exemple les douanes sur les grandes routes, qui sont connues peut-être un peu comme nos grands échangeurs routiers, ça fait partie des lieux de rupture sur le trajet, et on voit à ce moment-là que les grands axes font vraiment partie du patrimoine. Et ensuite, il y a des légendes qui s'y fixent, et très souvent ces légendes, elles se fixent comme des légendes de peur. On a une idée, nous, historiens, c'est que les routes médiévales étaient pleines de bandits. Mais en fait, c'est une idée médiévale, c'est une légende médiévale, et les légendes qu'on voit explicitées sont des légendes de « à cet endroit-là, des gens sont morts à cause des bandits ». Et pendant des siècles, on va répéter ça, alors que les bandits sont pendus depuis fort longtemps.
Mais est-ce que c'est pas, Philippe Artière, est-ce que c'est pas une manière de justement de marquer la route et d'écrire la route, et dans un monde qui relève, vous l'avez souligné, énormément de l'oralité, puisque toute cette poésie, elle est d'abord dite avant d'être écrite, me semble-t-il, et je me demandais si justement, l'agression ou la pseudo-agression n'est pas la menace, en tout cas, une forêt, un endroit, un croisement. Ce croisement serait marqué par une anecdote, et cette anecdote est une forme d'écriture du point où on va, et puis après on va à un autre accident, et que ce serait finalement le début d'une forme de cartographie pour du commun, quoi.
C'est la cartographie mentale qui joue des jeux de mémoire. La mémoire s'accroche à des lieux, c'est ce que disait Pierre Nora dans les lieux de mémoire, justement. Et la route est une succession comme ça de lieux de mémoire, certains plus importants que d'autres. J'avais commencé par travailler justement sur quelques-uns de ces récits, et par exemple sur la grande route, la très grande route médiévale de Paris à Orléans, qui a constitué vraiment le cœur du domaine royal et qui est une route très fréquentée. Donc quand on, sur cette ancienne route, enfin, qui est toujours la route nationale maintenant, il y a un petit décrochement après Arpajon, et l'ancienne route montait une petite côte à Torfou. Et à Torfou, pendant des siècles, on a raconté qu'il y avait des bandits. Alors je peux vous réciter par exemple quelques vers de Clément Marot. C'est dans la déploration de Florimond Robertet en 1527. Florimond Robertet, c'était un grand homme d'État mécène qui a protégé Marot, puis qui est mort en 1527. Et Clément Marot se met en scène sur la route Paris-Orléans. De mon cœur donc, l'intention totale vous contera une chose fatale que je trouvais d'aventure malsaine en m'en venant de Loire droit en Seine, dessus Torfou. Torfou, jadis, c'était un petit bois où la mort commettait meurtre bien grand sur ceux qui, chemin tel, voulaient passer. En cet huit lieu mortel, je vis la mort hideuse et redoutée dessus un char en triomphe monté. Et en fait, en prenant la route Paris-Orléans vers Paris, il croise le cortège funèbre de Florimond Robertet, et il va faire ensuite toute une allégorie sur la mort, mais il la croise à Torfou, parce qu'à Torfou, c'est un lieu mortel. Et j'ai comme ça trouvé une dizaine de mentions de bandits qui étaient à Torfou pendant trois siècles, avec à chaque fois l'idée, quand on brode un peu, qu'il y avait un bois, qu'un bois était rasé. Et alors, d'où ça vient ? Eh bien, la mention la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est dans une chanson de geste du début du XIIIe siècle, où il y a deux crayons qui s'entretuent. C'est dans le cycle des Lorrains. Les Lorrains se battent contre les Bordelais. Alors, c'est pas la Ligue 1 de football, mais c'est les guerres privées entre seigneurs. Et il y a un de ces seigneurs qui tend un guet-apens à l'autre seigneur qui vient de Paris, sur la route Paris-Orléans, forcément, donc il le guette à tort fou. Puis l'autre se fait tuer. Ça veut dire que sans qu'on puisse rattacher vraiment tout cela à une vraie succession, pendant 300 ans, on fixe une mémoire sur ce lieu, une toute petite côte sur la route.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Vous évoquez aussi le guide routier de Charles Etienne qui propose par exemple une sorte d'itinéraire bis, je ne sais pas comment l'appeler, de route plus jolie. Sur quoi est-ce que ça va nous renseigner ?
Le guide de Charles Etienne, c'est le premier guide imprimé français avec des centaines d'itinéraires routiers très très précis. Effectivement, il donne des variantes. Alors certaines variantes sont des chemins plus sûrs parce que certains chemins ont mauvaise réputation. Et puis il y a quelques variantes, en fait seulement 6, qui sont des chemins plus beaux. Alors c'est merveilleux pour moi parce que ça m'a permis, en reconstituant quelles sont ces routes par rapport aux autres, de rentrer dans le sentiment du paysage. Par exemple, quand on va de Paris à Sens, alors il y a plusieurs routes évidemment parce que c'est des lieux très fréquentés, il y a une route qui est assez rapide, elle passe par la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau. Par contre, il y a une route qui passe par la Brie. Oh, la Brie, qu'est-ce que c'est beau. Et donc ça, c'est un itinéraire spécialement choisi pour l'agrément.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut déjà parler de tourisme ?
Je parle de tourisme parce que les gens peuvent parfois voyager ou se détourner avec des 2 étoiles Michelin, des sites qui valent le détour. Et puis parce qu'en chemin, ceux qui écrivent, les sites voyageurs sont évidemment une source importante, ceux qui voyagent et qui écrivent ensuite ont les yeux bien ouverts et rapportent une grande moisson de choses vues. C'est vraiment quelque chose d'important et qui doit constituer petit à petit ce patrimoine visuel. Pour Charles Etienne, évidemment, c'était important de voir quelles étaient précisément ses routes, et ça fait écho à des proverbes plus anciens. Au XIVe, XVe, on n'a pas de guide routier imprimé, évidemment, mais par contre, on a des proverbes sur la Brie, qui sont inclus dans des pièces de théâtre, dans des mystères joués devant la cathédrale, qui nous disent par exemple « Cheminez tant que Brie est belle ». Ben voilà, la Brie, c'est un pays tout neuf, qui était défriché au XIIIe, où on a tracé les grandes routes qui vont aux foires de Champagne, dans les villes nouvelles comme Provins. Donc c'était un pays qui était à la fois prospère et beau, et qui est vraiment passé dans l'imaginaire collectif des gens dignes de France. On a constitué des routes commerciales, et elles ont été un paysage satisfaisant.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui vaut le détour, par exemple, pour l'homme du commun médiéval ? Qu'est-ce qui vaut le détour par rapport à ce qui vaudrait le détour pour nous, au fond, qu'est-ce que eux regardent ?
Alors, ce qui vaut le détour, on en a quelques mentions chez les voyageurs, surtout à partir du 15e, quand les voyageurs écrivent beaucoup. Avant, ils prennent quelques notes sur les tablettes de cire, et il est difficile d'en savoir plus. Le pire, c'est les voyageurs du 13e qui disent « Je suis allé à Paris 15 jours, j'ai beaucoup vu ». J'ai au 13e siècle un Chinois qui vient à Paris, un ambassadeur de la cour mongole. Il décrit la Sorbonne, Saint-Denis, la Sainte-Chapelle. Mais il est resté 3 semaines à Paris. On aimerait savoir ce qu'un Chinois visite au XIIIe. On n'en saura pas plus. Alors qu'il a eu une visite privée de la Sainte-Chapelle par le roi de France. Mais au XVe, XVIe, les gens sont très bavards à l'écrit. Et par exemple, on voit des voyageurs italiens ou allemands qui, quand ils sont sur la grande route de la vallée du Rhône, ils vont vers Avignon et puis ensuite Marseille, se détournent pour voir le pont Saint-Esprit. Donc le grand pont sur le Rhône, c'est un ouvrage d'art extraordinaire, il était déjà visité quand il n'était pas terminé à la fin du XIIIe siècle, et c'est à quelques kilomètres de la route qui ne traverse pas le Rhône, alors les gens font un petit crochet pour aller le voir. Parce qu'il est connu de tous, et donc lui, il est vraiment 2 étoiles vaut le détour.
La route qui sépare et relie, hein, participe j'imagine de la construction de ce sentiment commun d'appartenance à un territoire, hein, Léonard Dauphin, en même temps que apparaît, j'imagine, la notion de frontières, hein, qui vont être mieux marquées à partir du XIIIe siècle. Mais ça passe aussi par un geste un peu particulier qu'on n'a pas encore évoqué et qui fait source importante pour vous, hein, qui est celui de la liste. Hein. En l'occurrence, la liste des lieux, la liste des villes, la liste des rivières, la liste, cette obsession de l'historien, liste qui vont bientôt trouver place, notamment dans les chansons, dans les poèmes. Hein. Donc j'imagine que ça a été une bénédiction pour vous. Qu'est-ce que ce geste-là, celui de la liste, hein, leur permet à l'époque? D'où est-ce qu'il vient et surtout d'où en vient le goût?
Je pense que c'est le premier, enfin je ne suis pas quelqu'un de penser, mais c'est le premier outil cartographique, géographique, avant la carte écrite. Le voyageur va de lieu en lieu et il note sur ses tablettes de cire ce qu'il a vu en chemin. Et c'est ensuite reproduit comme des listes mnémotechniques qui sont par exemple incluses chez les jongleurs. Quand un jongleur récite une chanson de geste, il va se mettre en scène comme vagabond vis-à-vis de son public et il va inclure ces listes qui sont un peu la marque de fabrique du voyageur. Et ça permet de voir à la fois une expérience personnelle, puis ensuite une expérience qui est tout à fait commune. Par exemple, dans Charouanne-Nîmes, une épopée du XIIe siècle, on voit Guillaume d'Orange qui part à la conquête du Languedoc païen. Et c'est une sorte de poésie routière qui se met en place sur la grande voie du XIIe, XIIIe, qui va de Paris jusqu'à Nîmes. Et on va dévider les lieux qui sont parcourus par les croisés, en fait, qui sont les lieux du grand commerce. Ils traversent la Bourgogne, le Berry, l'Auvergne. Ils passent devant Clermont-Ferrand. Et le poème précise bien qu'il la laisse à sa droite, parce qu'effectivement, la route suit la vallée de Gallier. Et Clermont est à droite. Ensuite, ils passent par Brioude, ils passent par le Puy, ils arrivent au Cong, et là, arrive le Languedoc. Et dans la chanson de geste, c'est le lieu de l'ennemi. Et vous avez là, donc, une liste itinéraire. C'est les grands lieux de la grande route. Et qui deviennent à ce moment-là une espèce de géopoétique qui sert à replacer l'événement héroïque dans le quotidien.
Alors, route toujours, mais quelque part dans Lyon, et quelques siècles plus tard.
Ces images ont été prises justement quelques minutes après le terrible accident. C'est de cet amas de ferraille que l'on a retiré le corps d'Albert Camus, coincé entre le tableau de bord et le dossier de son siège, d'Albert Camus qui avait été tué sur le coup. De la manière dont a été disloquée la voiture, on se rend parfaitement compte de la puissance du choc. On a retrouvé des parties de la machine à plusieurs dizaines de mètres du lieu de l'accident. Et Mademoiselle Galimard a été projetée de l'autre côté de la route, agrippée à son coussin, ce qui lui a valu d'avoir la vie sauve. Son père, Michel Galimard, qui était au volant, souffre de plusieurs fractures du crâne. Quant à Madame Galimard, c'est aux jambes qu'elle a été blessée sérieusement. Une roue avait, paraît-il, éclaté. La voiture marchait à grande allure. Quoi qu'il en soit, le bilan est tragique et il a causé dans notre région un émoi considérable.
La mort de Camus, hein, le 4 janvier 1960, pour ouvrir ce plateau avec vous, Philippe Artière. Comme vous ouvrez votre livre, « Déroute », en deux mots, qui paraît chez Pauvert, avec une photographie de la voiture, enfin en tout cas de ce qu'il en reste, hein, dans laquelle se trouvait Camus, écrasé contre un arbre, suivi d'un chapitre zéro, qui commence comme suit. Au départ, se souvenir que le 4 janvier 1960, sur une route de Lyon, Albert C. fut tué dans un accident de voiture. Se souvenir aussi que c'est son éditeur qui conduisait. Pourquoi fallait-il commencer par là, Philippe Artière, c'est-à-dire non seulement par une photographie, mais par une mort violente, par l'évocation d'un corps, parce que même si le corps ne figure pas dans cette photographie, c'est évidemment ce corps mort qu'on voit, et puis surtout d'un corps littéraire. Qu'est-ce que ce départ, comme vous dites, hein, pour employer le vocabulaire de la route, pose d'emblée?
En fait, il s'inscrit totalement dans ce que Léonard d'Enfant vient de dire, c'est-à-dire ce lien très très fort entre la route, l'histoire de la route, qui est un vieux projet que j'avais énoncé dans un livre précédent qui s'appelait « Rêve d'histoire », où je prenais comme ça des objets et j'essayais de donner quelques pistes. Et puis j'ai repris ce dossier. Et alors, effectivement, il y a ce lien fondamental entre l'écriture et la route. ce qui m'intéressait en commençant par là, c'était de dire combien la route, ce que la route a fait à la littérature. Et ce que, même, enfin, à la littérature, mais plus généralement à l'imaginaire social. Et à un imaginaire social dont on peut dire que nous sommes d'une certaine manière sortis. C'est ça qui m'intéressait, c'était aussi c'était commencer le livre par une forme de fin. La mort d'un écrivain qui n'est pas n'importe quel écrivain, puisque Camus, c'est aussi, et il le dit au début de La Peste, et d'ailleurs c'est une citation que j'avais placée en exergue du précédent livre au fond, qu'il était, quand il écrit La Peste, au fond il fait travail d'historien. Il fait un travail d'historien. Je dirais que commencer le livre immédiatement par la mort de l'écrivain, c'était aussi en finir avec, énoncer le point final. Le point final de cet imaginaire social de la route, de cette culture de la route, qui me semble désormais dans le rétroviseur. Et là, on se rejoint. Cette dimension visuelle, qui est très très présente au 19e et 20e siècle, et surtout puisque c'est une histoire contemporaine de la route au fond que j'essaye d'écrire là, elle est essentiellement visuelle. Et d'ailleurs on y reviendra je pense dans la discussion, mais c'est une question qui est intéressante, c'est-à-dire à partir de quel moment en fait quand on dit qu'il y a un guide des jolies routes, ça veut dire qu'on passe, si je vous comprends bien, Léonard, d'une culture sonore, d'une sensibilité sonore au paysage, à une sensibilité visuelle. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre une image, parce que il me semblait que c'était très important. Et d'ailleurs, ce n'est pas une image, encore une fois, qui est une illustration. Hein, le livre est un, vous avez parlé de collage, est un accrochage d'un certain nombre de discours.
Accrochage qui fait sous-titre, hein, je le rappelle.
Qui fait sous-titre par ailleurs, ouais. Et qui, où il y a à la fois des images et à la fois des textes, des textes de différentes natures.
Alors vous écrivez, Philippe Artière, au chapitre 1, « J'ai toujours peur de prendre la route, elle passe devant chez moi, je la suis. » Je ne peux m'empêcher d'avancer, elle est toujours devant moi, ouvrant l'espace. Rebrousser chemin, m'arrêter, ou bien encore la quitter, ce serait risquer de perdre la possibilité de l'accident, de ce qui soudain rompt le temps, de ce qui fera récit. Alors, le texte progresse aussi comme un itinéraire. Hein, il est question de destination, il est question d'accident, de continuité, de discontinuité, de pause. Hein, il y a même un moment de silence au centre du livre, quelques accélérations, des histoires de routes principales, de petites routes, de détours justement, hein, dont vous parliez. Au fil de la route, on croise des documents administratifs, arrêtés parus dans le journal officiel, des extraits de « Comment conduire sa voiture », signé Maurice Trintignant en 67, qui est un texte tout à fait étonnant, en tout cas les extraits que vous en prélevez, des recettes du chauffeur de Baudry de Saunier en 1922, une collection de coupures de presse, j'imagine, hein, qui relatent des accidents de la route, pour l'essentiel mortels, ou encore votre propre rapport à la route avec souvenirs d'enfance, hein, du temps où les pères conduisaient, tenaient le volant et conduisaient en fumant, par ailleurs. Souvenirs de route, d'accidents et même souvenirs de films.
Thank you.
Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Duel, hein, de Spielberg, hein, qui est ce premier film de Spielberg en 73, qui est un film à peine dialogué, qui est monté un peu façon western. Donc, ce duel, c'est le duel entre un homme ordinaire au volant de sa voiture, poursuivi pendant tout le film par un 40 tonnes, par une sorte de machine monstre, sans qu'on sache jamais qui et sans qu'on sache jamais pourquoi. Alors de quel secours justement ces représentations-là, c'est-à-dire celles des films, je pense à Duel, je pense aux choses de la vie, vous ont été pour écrire, et notamment pour écrire cette histoire de la route?
Ce qui m'a beaucoup intéressé dans Duel, comme dans les choses de la vie, c'est la manière dont l'accident devient une abstraction. Et pour moi, le vrai trajet que parcourt le livre, c'est bien celle-là, c'est bien celui-là, c'est-à-dire la manière dont les écritures de la route progressivement quittent l'asphalte pour devenir, dans le cas de Spielberg, la menace. Dans le cas peut-être de Sautet, dans les choses de la vie, une forme.
Clairement,
très clairement une forme, puisque si on se souvient du film, il y a un ralenti sur le tonneau dans lequel Michel Piccoli va perdre la vie, hein, qui est un tonneau dont au début on ne comprend pas. Enfin, c'est une sorte d'image abstraite, hein, vraiment très abstraite, et qui dit aussi un destin, c'est-à-dire l'écriture d'un destin. Et c'est ce qui, en somme, est l'aboutissement du livre, l'aboutissement d'une équation. Hein, puisque dans ces écritures, il y a aussi l'écriture assurantielle, hein, et avec ses calculs sur les masses et la manière dont les véhicules freinent et peuvent freiner, et la responsabilité du freinage dans l'accident, jusqu'à ce qui nous renvoie très très loin et bien avant la période médiévale, en l'occurrence l'Antiquité. Et donc le meurtre d'Œdipe, et enfin le meurtre de Laios,
oui,
par Œdipe.
Voilà. Le meurtre d'Œdipe. Oui, alors parce que qui dit départ dit destination, et en l'occurrence celle de votre livre pourrait bien justement être celle-ci.
Levati! Leva di straccione! Vada! Vada! Togliti di mezzo la strada! Attenta a quello che fai!
Un extrait d'Œdipe, roi de Pasolini, le film de 67, hein, avec le cri de Franco Citti interprétant Œdipe. La scène se déroule donc sur une route nue et caillouteuse. Œdipe croise la plage de Laios, refuse de s'écarter, on connaît l'histoire, hein, pour laisser passer le roi de Thèbes, attaque l'équipage et finit par tuer Laios, accomplissant, sans le savoir, l'oracle de Delphes qui avait prédit qu'il tuerait son père. De Camus à Œdipe, hein, donc départ et destination. Qu'est-ce que cette destination finale, Philippe Artière, vient finalement dénouer et vient dire au fond du livre que vous vouliez écrire, hein, parce que c'est un peu le sentiment que ça donne. Hein.
Oui, d'abord je suis très content que vous ayez mis l'archive de Pasolini, parce que dans le livre, j'ai souhaité que la dernière image soit une image du film de Pasolini, mais pas une image de précisément l'accident, hein, un accident dont on pourrait dire que s'il a eu lieu, c'est parce qu'il n'y avait pas de code de la route. C'est un carrefour, mais c'est aussi la manière dont on pense le carrefour. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux routes qui se rejoignent Et dans les traducteurs un certain nombre d'hellénistes qui ont travaillé là-dessus depuis des années, c'est bien ce qu'on appelle finalement une sorte de pas de doigt, quoi. C'est extrêmement intéressant de voir que c'est bien parce qu'il n'y avait pas de signalisation, donc d'écriture sur le bord de la route, que probablement ce qui a constitué et qui constitue encore l'un des mythes fondamentaux de notre culture occidentale est né de la route. Mais pourquoi cette photo de Pasolini ? C'est celle d'Œdipe les yeux crevés. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était, et je dirais d'une certaine manière, ça va avec ce dont on va parler bientôt. C'est-à-dire quasiment, je disais à un moment donné dans Rêve d'histoire, on ne peut plus se perdre. C'est-à-dire que désormais, même l'aveugle peut quasiment il prend la route grâce au GPS sonore, il n'a plus besoin de ses yeux pour cheminer.
Alors justement, à propos du livre que vous vouliez écrire, hein, ce que je disais tout à l'heure à propos d'Œdipe, vous écrivez, Philippe Artière, « J'ai toujours voulu tenter d'écrire un livre sur la notion d'événement ». Et c'est aussi de ça qu'il est question, au fond, dans cet ouvrage-là.
Ce qui me retient dans ce projet sur la route, c'est qu'en fait, je ne pouvais passer que par l'événement. C'est-à-dire une histoire de la route au 19e et 20e siècle, enfin en tout cas au 20e siècle, ne peut s'écrire que par rapport à cette question de la sortie de route. Et c'est pour ça aussi que le livre, dans un jeu de mots, dit aussi la déroute, c'est-à-dire précisément quand on sort de la route sans forcément le vouloir. Et l'extrait que vous avez cité de Duel, enfin la bande sonore, est ce moment où ce premier moment où le voyageur de commerce, hein, puisque c'est très attaché aussi, et j'y reviens beaucoup dans le livre, à une forme d'habitat, qui est la voiture, eh bien, sort de la route, et ce paysan américain lui demande « What happens ?». Et c'est vraiment ça qui le « What happens ?», c'est la question, je dirais, de l'historien. Donc c'est aussi pour ça que c'est un livre qui cherche aussi à réfléchir sur ce que c'est qu'être historien.
A lot of people have asked me why did I write that book or any book. All the stories I wrote were true because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of Evenfall, a great image of God with forefinger pointed straight at me through halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan. Go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight. Go thou and be minute as seed in the pod. Go thou, die hence. And of this world report you well and truly. Anyway, I wrote the book because we're all gonna die. In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away. Nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world, a sweet attention.
Lecture de Jack Kerouac, hein, c'était pour le Steve Allen Show en 1959, hein, soit 2 ans après la parution de Sur la route, un texte sous lequel, peut-être, enfin pas seulement, mais en tout cas sous lequel se place Wonder Road, dont vous êtes éditeur, l'un des éditeurs en France, David Derrimé, un texte tout juste paru aux éditions Jean Boite, en deux mots, là aussi, qui se lit au moins autant par la façon dont il a écrit et par les questions qu'il pose, la façon dont il a été écrit et par les questions qu'il pose, que par ce qu'il écrit à proprement parler. Un itinéraire, hein, Brooklyn, la Nouvelle-Orléans, 2000 km donc, une Cadillac de location, des occupants, une caméra GPS sur le capot, une horloge, un micro-enregistreur dans l'habitacle, le tout relié à une intelligence artificielle, encodée j'imagine, enfin je ne sais pas trop comment on dit dans ces cas-là, mais par Ross Goodwin, le tout produisant un texte écrit en temps réel, un roman donc écrit par une voiture, dit un peu vite. Alors on écoutait Kerouac à l'instant, on aurait pu écouter Tom Wolfe, on aurait pu écouter Hunter S. Thompson, hein, puisque Ross Goodwin a préalablement fait lire pas moins de 200 classiques de la littérature anglo-saxonne, mention road trip, à son intelligence artificielle. Comment cette liste, cet entraînement, qui au fond est un peu une façon d'entraîner ou de muscler la machine, je ne sais pas comment dire, a-t-elle été composée? Selon quels critères?
Effectivement, ce livre a été écrit par une machine et on ose le présenter un petit peu comme le premier livre écrit par une machine, ce qui est à la fois vrai et faux. Des machines écrivantes ou des machines à qui on demande de produire du texte, ça existe depuis vraiment très longtemps. Ce qui est ici très particulier, c'est là qu'on va revenir à la liste, c'est la dimension, c'est la qualité de cette intelligence artificielle et la dimension qu'on appelle en anglais de deep learning, c'est-à-dire d'une machine qui a des capacités d'apprentissage par elle-même et qui donc échappe à l'écriture initiale de son code pour parvenir à produire un contenu que personne n'a pu attendre d'elle. Et elle peut en effet produire ce contenu parce qu'elle est nourrie et parce que son écosystème intellectuel, je le dis mal mais c'est un petit peu l'idée quand même, est effectivement constitué d'une très grande quantité de données. Ici les données ce sont des ouvrages de littérature anglo-saxonne, sélectionné par celui que nous appelons donc l'auteur de l'auteur, qui est Ross Goodwin, qui est l'auteur de la machine, qui, par parenthèse, est pas inintéressant de s'arrêter une seconde sur cet auteur, parce que avant d'être un codeur de génie, ce qu'il est, il est la plume de Barack Obama pour la campagne de 2008, puis celle de John Kerry. Il est donc quelqu'un qui est familier de la production de texte, mais d'une production de texte assez particulière, tendue à un objectif, en tout cas dans une dimension comme ça, extrêmement pratique. Donc il y a un vrai background, ou pour le coup un vrai arrière-plan chez lui, de fréquentation du texte et d'écriture. Et c'est lui qui, de toute façon émotionnelle, instinctive, va choisir la liste des romans, les romans dont il va nourrir la machine. Donc il s'agit d'écrire un code, d'un côté, qui doit être génial, brillant, c'est très compliqué, enfin moi-même je n'y ai toujours rien compris, il appelle même ça maintenant un réseau de neurones artificiels, l'intelligence artificielle renvoyant plutôt à une procédure et des circuits relativement clos dans ce que l'on peut demander à la machine. Le réseau de neurones artificiels, lui, est en capacité d'apprendre et de s'auto-améliorer. Et donc il y a cette écriture-là, de l'autre côté il y a la sélection de la matière qu'on lui donne à entendre. Ça en fait donc une grande différence avec ce que l'on a pu voir par exemple dans les dernières années de réseaux neurones artificiels qu'on a laissé aller sur Internet et qui du coup exposaient à une très grande quantité d'informations sans aucune capacité de les hiérarchiser par lui-même, puisque lui il débarque et les mots se valent d'une certaine façon, en tout cas les formules se valent, et les réseaux de neurones virent dans des extrêmes.
C'est la différence Leonardo entre une éducation classique, parce que finalement en s'ingurgitant ces 200 classiques du road trip, il agit un peu comme un élève médiéval qui a son corpus de classique, alors que les robots qui vont sur Internet me font parfois penser à mes étudiants de première année qui ne savent pas non plus hiérarchiser l'information.
Non mais totalement, et c'est très intéressant de voir que du coup cette machine ne connaît du monde que déjà des formes romanesques, des formes littéraires, et que c'est à partir de là qu'elle peut former ses propres impressions. Ses propres impressions étant en réalité nourries par le dispositif technique que vous avez évoqué, c'est-à-dire une caméra, un microphone, un GPS et une horloge. Tout ça lui donnant la matière à produire du texte. C'est ce qui rend cet ouvrage exceptionnel du point de vue de...
Quand vous dites à produire du texte, ça veut dire que... Alors, juste qu'on comprenne bien comment ça marche, c'est-à-dire que les images, par exemple, que va enregistrer ou analyser, qui sont en fait les données que l'intelligence artificielle va digérer... ces images-là produisent un déclencheur narratif.
Précisément. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas à quel moment le déclencheur, enfin à quel moment c'est déclenché. C'est-à-dire qu'elle reçoit un flux continu d'images via cette caméra qui est sur la voiture est en route, donc le flot d'images est continu, et à un certain moment, la machine, l'intelligence artificielle, choisit d'écrire, de se lancer dans la production d'un paragraphe de texte. Je prends l'exemple du début du voyage, donc ils sont à New York, ils allument le moteur de la voiture, tout est lancé, et puis la route commence. Mais là, elle n'a rien écrit encore. Et à un moment donné, elle se met à écrire, et voici la première phrase du livre, je la lis parce qu'elle est devant moi sur la couverture. Elle dit « It was 7 minutes to 10 o'clock in the morning, and it was the only good thing that had happened. » Donc il était presque 10 heures du matin, et c'est la seule bonne chose qui soit arrivée. C'est quand même un démarrage, si vous voulez, quand nous on a eu le manuscrit dans les mains, un démarrage tout à fait formidable. On ne sait pas pourquoi elle commence à parler. On a exactement l'heure à 9h53 minutes et 46 secondes, alors que ça fait 15 minutes qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui déclenche ce moment-là d'écriture? Qu'est-ce qui provoque cela? Et les questions qui sont derrière autour de l'inspiration, le moment décisif, l'influx de données qui nous pousse à produire ou en tout cas à partager une production ici littéraire. Voilà, les questions sont posées. Alors, je veux même pas rentrer dans les qualités ou les non-qualités littéraires du texte.
C'est qui est parfois difficile à lire. Hein, quand
bien
même,
sûr.
Bien le dire,
hein. C'est une succession. C'est une longue liste. C'est une succession. Cependant, elle va quand même
avec
réussir.
Des répétitions de structure. Et alors, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, alors peut-être parce qu'on a tendance aussi à le lire en ayant en tête en permanence comment ça a été écrit, mais certaines structures et répétitions de structures, on comprend qu'elles sont liées au fait qu'il y ait une horloge, qu'elles sont liées au fait qu'il y ait des images, donc le fait qu'il y ait ces fast-food qui reviennent, ces stations-service qui reviennent, et puis des manières de formuler, c'est-à-dire beaucoup d'attaques de paragraphes par il
l'heure,
était.
Voilà. Ouais, tout à fait. Le dispositif technique ici ressort beaucoup parce que l'ouvrage a été moins conçu comme le grand roman de la rentrée littéraire, que comme le marqueur d'une bascule forte qui consiste à assister à une production littéraire, ou du coup, une production de texte de la part d'une machine dans une qualité et une cohérence qui, elle, n'avait pas été vue. Donc, il y a ce moment de bascule. Il est très certain, et je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant ou dans quelle mesure ça va nous intéresser de beaucoup lire cela, qu'il y aura d'autres machines écrivantes qui vont arriver, qui vont certainement même avoir des capacités littéraires plus abouties. Il se trouve que là, ce qui est marqué ici, par le biais de cet ouvrage, c'est cette bascule très forte qui nous plonge dans l'inattendu face à une machine.
Ça veut dire que un tel ouvrage, et je m'adresse aussi à l'éditeur, s'inscrirait dans une histoire de la littérature ou dans une histoire de la technologie, ou alors dit de façon beaucoup plus simple, par exemple en librairie, dans quel rayon se trouve-t-il?
C'est très compliqué. De mon point de vue, en librairie, il est important qu'il soit sur la table. Mais
réponse d'éditeur.
En réalité, il s'inscrit bien sûr dans les deux. C'est-à-dire une histoire de la littérature, c'est pas anodin ou inintéressant que Ross Goodwin, l'auteur, ait choisi cette forme du road trip américain, extrêmement codé, connu, qui est aussi un lieu commun, du coup. Et donc on se retrouve, encore une fois, pris dans cet arrangement, mais c'est aussi une histoire de la technologie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui, en vous écoutant, m'a fasciné, parce que on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais cette évolution de notre regard sur la route, il y a aussi une évolution technique qui est liée au véhicule. Je me souviens, par exemple, ça m'avait beaucoup marqué d'une exposition, je crois que c'était l'an dernier, à la Fondation Cartier, qui s'appelait Autophoto, et qui permettait un petit peu de faire le parallèle entre l'invention de l'appareil photo et de la voiture, et de leur évolution technique aux deux, et notamment aussi de notre rapport au cadre. C'est-à-dire que ce soit à travers l'appareil photo, à la façon dont on cadre le réel et dont on l'enserre, mais aussi quand on est au volant de sa voiture ou dans une voiture, comment le paysage nous parvient, et lui-même dans un certain cadre, et que cette évolution parallèle de ces deux techniques avait eu une influence sur notre relation au paysage. Et donc là, on revient encore une fois dans une succession ininterrompue, tout à fait historique, à repenser à notre relation au paysage, à la réinvention d'un paysage. Le livre, du coup, se positionne à ces deux endroits.
Philippe Partière.
Je me demandais si là, nous, dans ce cheminement que nous faisons, on n'arrivait pas à une forme d'écriture de ce qu'on, au fond, du flux. C'est-à-dire, est-ce que cet objet, hein, qui a une forme libre, qui pourrait avoir aussi une forme numérique. On pourrait imaginer très bien, enfin c'est un peu comme ça d'ailleurs que je l'imaginais, c'est-à-dire que au fur et à mesure, en fait, ça se déroule, puisqu'on a parlé
c'est
Kerouac comme le rouleau. Hein,
c'est tout à fait ça. Par exemple, je fais une petite parenthèse, mais en réalité, au moment du road trip, la seule façon de profiter du texte, ça a été d'installer une imprimante de tickets de carte bleue, qui était la seule imprimante suffisamment véloce pour imprimer au fur et à mesure ce que la machine produisait. Donc ils se sont retrouvés à l'arrière de la voiture avec des centaines de mètres de rouleaux de carte bleue inscrits, ce qui là encore est assez cocasse quand on pense à la route en effet.
Moi, je me demande dans quelle mesure là, ce qu'on dessine, c'est pas finalement aussi une histoire de l'inscription, de l'inscription, enfin de ce qui relevait. On a quand même commencé l'émission avec un chant, et puis on l'achève avec un rouleau de carte, enfin du papier, ce papier si singulier qui est aussi très éphémère. Parce que combien d'entre nous gardons nos tickets de carte bleue? Enfin, il y a même beaucoup de pays où aujourd'hui on vous demande si vous ne voulez encore les avoir. Donc il y a quelque chose aussi de fragilité très différente.
Très juste, juste pour faire une dernière réponse là-dessus, c'est précisément nous ce qui nous intéresse au moment de produire des livres. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer là-dedans, mais la nature même de la maison d'édition est de retourner vers la forme livre pour avoir une forme pérenne de projets, d'idées, de créations qui sont plutôt amenées à, sont plutôt dans l'espace ou dans l'espace d'espace digital.
David Derimé, Philippe Artière, Léonard Dauphin, c'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors bon après-midi à toutes et à tous.
Merci. Cette matière éphémère, ça me fait penser aux tablettes de cire des voyageurs. Parce que justement, c'est la matière première du voyage. Alors évidemment, il n'y a pas ce flux de la machine qui crache le papier, mais c'est les impressions immédiates. Et on peut se demander là aussi d'où elles viennent. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit en chemin?
Oui, tout à fait. Et je note aussi, sauf peut-être moins au moment de l'accident, mais que l'intégralité des sources et des moyens de connaître la route qui ont été évoqués depuis le XIIe siècle sont plutôt des sources romanesques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de tension à rendre compte du réel, mais plutôt, on était quand même dans la sensation pure.
Moi, je pense au Charonnim, là, dont j'ai cité. On voit les croisés, enfin, ce sont des croisés, ils vont se battre contre les Sarrasins en Languedoc. Ils ont droit à un beau discours de Guillaume d'Orange quand ils arrivent sur la montagne. Donc, on arrive en terre ennemie chez la race criminelle, nous dit l'agent criminel. Et donc, ils ont une vision idéologique de la route, quoi. C'est la route de la conquête. Et les premiers qu'ils rencontrent en descendant, c'est un paysan sur son chariot, avec des tonneaux derrière, et ses trois enfants qui jouent aux billes sur une tonneau. Et là, d'un coup, il y a la tension entre la route imaginée, qui est la route d'Oedipe, quoi, la route qui va aboutir au crime fondateur de la conquête, et puis le quotidien. Alors, que font les Français? Ils se mettent à rire, quoi.
Et peut-être que c'est une dimension, d'ailleurs, enfin, qu'on n'a pas abordée, mais qui m'importe beaucoup, c'est que la route, c'est aussi le lieu, c'est aussi un lieu un lieu funèbre. On a parlé pour les bandits, et je pense évidemment à la Via Appia, qui est cette longue voie romaine qui est bordée de cimetières, qui est une forme de tombe, qui est une forme assez étrange qu'on retrouve d'ailleurs au Chili ou ailleurs le long des routes. Hein, on voit beaucoup d'hôtels pour des morts, et que la route aussi, c'est une inscription, c'est une forme d'inscription de nos existences passées.
C'est une poétique du passage, oui.
Des poètes, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Frédéric Changenet pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à David Derimé, Philippe Artière, Léonard Dauphin. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission. À réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec LSD, la série documentaire.